Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre.
Voilà ta jambe, ton spécial, c'est bien ça. Le temps défile, 3 secondes, il est champion olympique.
Le 5 août 2021 à Tokyo, Steven Dacosta devient le premier champion olympique de karaté en catégorie moins de 67 kilos. Le premier et le seul, car le karaté n'a fait qu'une apparition aux Jeux olympiques, c'était à Tokyo en 2021. Biberonné au karaté, il est triple champion du monde et d'Europe. Avec lui, nous allons découvrir comment le soutien de sa famille et la passion de toute une ville lui ont donné les ressources pour décrocher cette médaille d'or olympique. Bonjour Steven Dacosta.
Bonjour.
Elle est rangée où cette médaille olympique ?
Là, elle est chez moi maintenant, mais elle a été un peu partout. Un peu dans la voiture, un peu chez mes parents, un peu chez moi. Et des fois, je ne savais pas trop où elle était, mais...
Et quand il s'agissait d'aller à l'Élysée avec, elle était où ?
Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture. Mais ouais, je ne suis pas trop attaché à ces choses-là. En fait, si, oui, au titre, etc. C'est vrai que celle-là, elle est magnifique en plus. Mais je n'ai jamais eu cet attachement matériel aux médailles.
Vous la regardez souvent ?
Bah non, là, je l'ai aujourd'hui, mais ça faisait un an, je ne l'avais pas vue.
D'accord. Mais elle restera unique dans l'histoire. Et ça, j'imagine que ça vous pèse.
Ouais, bah bien sûr que ça me pèse, et ça pèse à, pas qu'à moi, justement à beaucoup de monde, et j'ai eu la chance moi d'en avoir une quand même, mais c'est moche pour la suite.
Parce que le karaté est plus inscrit aux Jeux Olympiques et ne sera pas à Paris 2024.
Bah ouais, malheureusement pour moi, malheureusement pour le karaté, et peut-être malheureusement pour la France même.
Oui, parce que c'était une bonne chance de médaille pour la France qui brille dans ce sport.
C'est vrai.
Steven Dacosta, on va revenir sur votre histoire personnelle, votre histoire en tant qu'athlète. Vous avez un an quand votre grand frère, Logan, se met au karaté. C'était une obligation, quelque part, le début d'une histoire de famille à ce moment-là.
Ouais, c'est pas forcément une obligation, mais on veut tous faire un peu comme le grand frère. Et ben c'est ce qui s'est passé. Hein. À 4 ans, mon frère jumeau et moi, on commence. Et puis oui, après, derrière, ça devient une histoire de famille. Mon père s'y met, du coup, bah, c'était notre lien, en fait.
C'était amusant pour vous de voir Logan faire du karaté quand vous aviez un an ? Peut-être que même dans les gestes à la maison, à peine vous avez su marcher.
Ouais, c'est
vous...
possible. C'est possible qu'on a commencé bien avant à faire des techniques de karaté. C'est possible. Hein. Je m'en souviens pas. J'ai déjà du mal à me souvenir ce que j'ai fait cette semaine. Alors ça, encore moins. Mais oui, je pense. Bah, on a baigné dedans. On est né dedans. Hein, nous, à 4 ans déjà, tu choisis pas vraiment. Tu fais parce que voilà, on fait. Mais c'est tout.
Ça change quoi que ce soit les enfants, donc Logan, Jesse, votre frère jumeau et vous, qui donnez l'impulsion. Parce que votre papa, c'est pas... Normalement, dans une lignée de sportifs, on a l'habitude de dire c'est les parents qui donnent l'impulsion. Vous avez fait à l'envers.
Bah, c'est peut-être ça qui a bien marché, finalement. C'est que ouais, tout s'est fait à l'envers. Après, c'est pas forcément nous qui l'avons poussé au karaté. Hein. C'est plus lui par fierté, parce qu'une fois, il criait sur mon grand frère pour qu'il fasse ci ou qu'il fasse ça. Un peu comme quand on n'est pas dedans, c'est facile de parler, hein, toujours sur le côté. Et c'est un adulte qui lui a dit « Ouais, mais c'est facile de parler là où t'es, mais vas-y, monte sur le tapis, tu vas voir que c'est pas si simple. » Et par orgueil, bah, il a dit « Ok, vas-y, je vais monter. » Et voilà, c'est parti comme ça, en fait, à la base. Et après, à force bah, de s'entraîner avec nous, de nous connaître par cœur, bah, c'est lui qui nous a entraînés tout au long, au final.
Vous venez d'une ville qui est centrale dans votre histoire. Parlez-nous de cette ville.
Je viens de Mont-Saint-Martin, une petite ville dans l'est de la France, en Meurthe-et-Moselle. Et j'ai grandi, j'ai habité là-bas toute ma vie. Je suis né là-bas, j'habite là-bas encore actuellement, et toute ma famille avec. Et ouais, c'est vrai que j'ai un lien particulier avec ma ville. C'est chez moi, c'est mon terrier, c'est mon cocon.
Quand vous étiez petit, vous vous entraîniez sur absolument tout ce que vous trouviez, même sur une peluche géante qui faisait presque votre taille.
Ça, c'est arrivé, mais c'était plus, il y avait un truc qui me passait par la tête, parce que je regardais beaucoup de vidéos, j'étais un fan, et plus ça me passe par la tête un truc, j'essaye dessus, parce qu'il n'y a que ça qui est là. Donc, ouais, c'est là, donc vas-y, j'essaye. Et, c'est vrai qu'il y a eu des petits trucs.
Et c'est là que vous avez perfectionné un geste qui sera votre signature. Je vous laisse le prononcer. Ura Mawayashi.
Je te laisse le faire. Quoi ?
Ura Mawayashi.
Mawashi.
Mawashi. Oh, c'est bon, j'étais pas...
C'était pas loin.
Non, je réessaye. Ura Mawashi.
Voilà, voilà. Parfait.
Donc, j'explique quand même. Il s'agit d'un coup de pied circulaire inversé de la jambe avant.
Oui.
Jusque-là, c'est bon. Venant frapper avec la plante de pied ou le talon, l'extérieur ou l'arrière de la tête de l'adversaire.
C'est ça.
c'est la signature. C'est bon, il faut pas le reproduire dans son salon si on n'est pas professionnel.
Non, ouais, c'est un peu. Bah, ça a été ma signature parce que j'en ai mis beaucoup en fait. Mais en soi, sans choisir, c'est juste que pourquoi cette technique, je saurais pas dire. Mais ouais, j'en ai mis pas mal. Elle m'a sauvé une paire de fois.
À peine ado, quand vous avez 14 ans, on est en 2011, vous partez au Krebs de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry en région parisienne. C'est un sport-étude de karaté. Vous partez avec votre frère jumeau, Jesse Da Costa, et vous retrouvez Logan. C'est dur de partir, non?
On est tous les trois, en vrai ça va. Peut-être que pour mes parents c'était dur, la maison devait être vide, mais en soi pour nous c'était pas... Si, moi ça me manquait, mais c'était pas... Sinon c'était... Et en plus c'était Paris, c'était pas Bordeaux, donc ça va, c'était pas... Pas trop dur.
Qu'est-ce qui vous manquait? Votre ville?
Ouais, ma ville, mon entourage, mes proches. Tu perds beaucoup d'amis, tu perds beaucoup de monde. C'est dur à tisser des liens, etc. Parce que bah, t'es là une semaine sur deux et encore t'es là deux jours. C'est compliqué.
Déjà, à l'époque, vous gagnez tout ou quasiment tout. Vous êtes champion du monde en 2013, chez les juniors, champion d'Europe 2013 et 2014. En fait, est-ce que les victoires, ça comble les manques que vous pouvez avoir de vos proches ou...
Peut-être, en tout cas, ça pousse à rester parce que ça marche, du coup. Mais c'est sûr que si tu fais que des années blanches, c'est plus compliqué. Mais oui, bah forcément, ouais, ça aide.
Donc vous devenez champion d'Europe chez les grands, cette fois, à Montpellier, on est en 2016. Vous êtes champion d'Europe en individuel et par équipe, avec un bronze au championnat du monde également par équipe. Vous avez 19 ans. En fait, vous gagnez tout. Il y a quoi qui fait que vous continuez à aller plus loin? Parce qu'à 19 ans, quand on gagne tout, on peut avoir la tentation de vivre la vie d'un jeune homme de 19 ans.
Ouais, c'est vrai. Bah, après, moi, je pense que ce qui m'a fait rester, c'est que cette vie de jeune homme de 19 ans, je crois que je l'ai vécue parce que je ne suis pas du tout un exemple du sportif de haut niveau.
Pourtant, on ne dirait pas parce que vous êtes, de toute façon, vous êtes régi par le régime de moins
ouais,
de 67 kilos.
Justement, quand on est régi à ces choses-là, et bah derrière, quand on a les portes ouvertes, c'est tout à l'inverse. Et non, en fait, je pense que c'est oui... J'ai toujours dit que j'étais pas un exemple du sportif de haut niveau et sur certains points oui en termes de performance etc, mais sur l'hygiène et tout pas forcément, et parce que en fait j'avais besoin de ça, moi j'avais besoin de profiter de la vie et pas arriver à 30 ans et me dire faut que je rattrape ma jeunesse parce que je l'ai pas eu. Et non, moi je pense avoir assez profité, et aujourd'hui j'ai même plus envie de sortir etc, parce que en fait je l'ai fait toute ma jeunesse à des moments voilà,
où vous pouviez
c'est ça, il y a des moments où ouais, il y a même des moments où c'était borderline mais j'y allais quand même. Non mais après oui, il y a des fois où forcément où je pouvais pas y aller, mais voilà, fallait savoir faire la part des choses. Mais sinon j'ai toujours profité sans regret parce que j'ai pas mis ma vie entre parenthèses pour le sport.
Le 10 novembre 2018, à Madrid, en battant le Brésilien Vinicius Figueira, vous devenez champion du monde pour la première fois. Vous avez 21 ans.
Champion du monde ! Et le salto pour terminer. Ah, on imagine la joie de tout le clan, de ses frères, oui, de sa famille, de son père, de sa mère, qui sont en tribune. Là, ils sont venus de loin, ils sont venus de Mont-Saint-Martin.
Ça, vous vous en souvenez quand même?
Ouais, du premier, ouais, il était beau. En fait, les trois titres, ils ont tous un goût différent. Mais c'est vrai que le premier, c'est le premier.
Après ce championnat du monde, vous décidez de rentrer chez vous, à Mont-Saint-Martin. On est à 2 ans des Jeux Olympiques. C'est pas habituel qu'une fédération laisse un athlète repartir s'entraîner chez lui, repartir s'entraîner. C'était votre père, votre entraîneur au quotidien. Ça s'est passé comment?
Très bien, parce que en soi, ils avaient compris que de toute façon, en soi, ils m'ont... Bah, après, je suis un grand garçon, j'aurais fait ce que je veux à la fin. Hein.
Mais, oui, ça, j'ai cru le comprendre.
Mais en soi, c'était en accord complet avec la Fédé. J'ai pas voulu partir en mode, oui, bon, je pars, c'est comme ça. On en a parlé, et on a pris... Bien sûr, il y avait leur avis qui rentrait en compte. Et eux, ils n'étaient pas contre l'idée en soi, parce qu'ils savent que chez moi, je m'entraîne dur. Mais ils n'avaient pas forcément envie d'avoir la main sur moi et ils savaient que c'était quelque chose de bon pour moi. Mais il y avait quand même le truc de si ça ne marche plus derrière, ben, on va me taper sur les doigts pour ça. Donc, mais c'était peut-être un petit challenge qui m'a poussé à ok, laissez-moi rentrer, mais vous inquiétez pas, je ferai quand même le taf. Et en soi, je pense que mes plus belles années, elles sont arrivées. Et je dis pas que c'est parce que je suis rentré, mais peut-être c'est de la chance, mais mes meilleures années sont arrivées à ce moment-là.
Et il n'y avait pas le risque, quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez vos amis, vous retrouvez vos habitudes, vous êtes dans une vie...
C'est ça qu'ils avaient peur. Ils avaient peur du cocon, ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas rester dans ta zone de confort et ne pas sortir de ta zone de confort, etc., etc. C'est plus ça qu'ils avaient peur. Et il y avait mon père, donc ça devait... normalement, ça allait bien se passer.
Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que même si moi, je pensais que j'allais être tranquille, ça se passait différemment.
Il est plus sévère qu'un entraîneur au Krebs?
Ouais, il a moins de pincettes, il a moins de filtres qu'un entraîneur du Krebs. Après, c'est vrai qu'ils ont... Bah après, moi, j'ai Olivier qui m'a toujours suivi, donc depuis toujours, mon coach France, Olivier Baudry. On a une relation différente. Et il y a mon père qui est... C'est mon père. Il y a un peu mentalité à l'ancienne, éducation à l'ancienne. Et voilà, c'est différent. C'est deux trucs différents, mais ça colle bien. Parce qu'il y a des fois où j'ai besoin d'être dans le dur et d'être bousculé. Il y a des fois où j'ai besoin peut-être d'être un peu plus rassuré. Et donc, ouais, ils allaient bien ensemble.
Mais du coup, il manque pas un papa? Parce que si votre père, c'est l'entraîneur...
Ah
c'est...
non. Non, en vrai, non. Parce que, comme je t'ai dit, on ne s'est jamais entraîné à la maison déjà. Donc
on arrive à switcher comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais, ouais. Bon, le sujet karaté, il est là, il est omniprésent, hein, même au repas de famille et tout. Hein, mais non, parce que comment t'expliquer ça? C'est que tu vois, par exemple, déjà, mon père, il vit pas du karaté.
D'accord.
Donc il touche pas d'argent, il gagne pas d'argent avec le karaté.
Il a une vie à côté.
Ouais, ouais, il travaille, mon père. Donc c'est pas en soi, c'est pas comme si la perf, oui, c'est beau. Mais c'est beau parce qu'on le vit tous ensemble, mais pas de là à nous ruiner entre nous, tu vois, pas de là à se gâcher la vie. Donc il y a des fois où ça a clashé méchant à la salle, et on rentre à la maison, ça y est, sujet passé, fini. Fini, alors que ça s'est clashé méchant juste avant, mais à la maison, pas de ça à la maison.
Parce qu'à la maison aussi, il y a votre maman.
Il y a l'arbitre. Ouais, ça marche pas à la maison, ça marche moins bien.
C'est elle la bulle de douceur? Elle fait quoi? Elle travaille, elle
pas
aussi?
Pas toujours, hein. Pas toujours. Pas toujours. Ma mère, c'est l'intendante, elle, c'est les kimonos, c'est tout ce qui va avec. Et quand elle doit nous rentrer dedans un peu quand ça va pas.
Il fallait bien qu'elle se défende quand même. Trois garçons qui font du karaté, ouais. Un mari qui fait du karaté.
C'est nous qui la défendons. Non, mais elle a plus ce rôle-là de. Ouais, on va plus facilement parler à ma mère qu'à mon père. Mais. Enfin, moi, j'ai pas de difficulté à parler aux deux, mais on a une relation différente. La maman, c'est la maman, ça reste toujours différent.
Vous vous entraînez dans l'ancienne salle des fêtes. Et juste avant, en fait, on va rappeler, les Jeux étaient prévus en 2020. 2020, c'est l'année Covid. Donc, ils sont déplacés en 2021. Et vous, pendant le Covid, comme c'est l'ancienne salle des fêtes qui a été transformée en dojo, j'imagine qu'elle n'est pas très loin de chez vous.
Elle est à 50 mètres de chez moi.
Donc, vous pouvez y aller en moonwalk.
On peut y aller.
Mais surtout, vous pouvez continuer à vous entraîner pendant le Covid. Est-ce exact. Que ça a été la grande chance pour vous, enfin la grande chance, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas une opportunité.
Ah, moi ça a été, moi je le dis tout le temps, ça a été le meilleur moment de ma vie, ça a été le Covid. Ça
d'accord, on va le dire doucement, mais...
non, mais au-delà, oui, au-delà de l'épidémie, etc., et puis de tout ce qui s'ensuit. Non, la période de break où t'es à la maison, t'as rien à faire, t'es bien, tu sais pas comment ça se passe demain, t'as rien de planifié, les Jeux ils sont reportés, moi c'est le moment de souffler parce que on a eu des sélections parcours du combattant pour le
karaté. Depuis l'âge de 12 ans, vous n'êtes pas arrêté?
Ouais, non, jamais. Et en soi, j'ai soufflé un bon petit moment. Après, j'ai repris. Et en plus de ça, les Jeux étaient reportés. Moi, j'étais qualifié, quoi qu'il arrive. Ça, c'était le meilleur moment de ma vie. Et en plus, moi, j'étais en travaux, donc ça tombait bien. et derrière, ça m'a permis d'avancer. Non, moi, ça a été bénéfique partout.
Alors, je reviens sur ce « en travaux », parce que je voudrais qu'on précise, vous vivez tous...
Ouais, c'est mes voisins, mes parents.
Quasiment collés les uns...
En fait, moi, c'est mes voisins, mes parents, et j'ai une autre maison juste à côté. Et là, il y avait mon frère à ce moment-là. Donc ouais, on était tous voisins.
Vous n'arrivez pas à vous séparer les uns
non,
des autres?
Non, maintenant, ça commence petit à petit. Logan, il a sa maison, mais bon, une rue en dessous.
Ah oui, d'accord.
Une rue en dessous, et moi, je resterai là, c'est sûr.
Quand on est champion du monde, on se dit, bon, la seule marche au-dessus, c'est au-dessus ou au moins à côté, c'est champion olympique. Mm-hmm. C'est quelque chose auquel vous avez toujours pensé quand vous avez vu que le karaté était au jeu?
Pas du tout. En fait, là, ben, je pense que c'est ce qui a tué beaucoup d'athlètes dans le karaté. C'est quand c'est arrivé et que nous, il y avait très, très peu de place. C'était 10 par KT, donc c'est très, très peu. Et en gros, ils prenaient les 4 premiers du classement mondial. Moi, dans la mienne, les 2 premiers. parce que j'étais, moi ils avaient regroupé une catégorie avec moi, donc deux premiers de la
de
catégorie,
l'une,
et ouais voilà c'est ça. Et
donc il fallait déjà être parmi les deux meilleurs
mondiaux
pour aller au jeu.
Ouais. Donc autant te dire que
en termes d'écrémage, oui.
Ouais, ils ont pris serré. Hein. Et en fait, tout le monde comptait ses points, comptait ses trucs, était focalisé. Ouais, si à cette compète, je fais tant de tours, je prends tant de points. Pendant la course olympique, je saurais pas te dire j'ai été combien tième tout au long. Je saurais pas te dire combien j'avais de points. Et je saurais pas te dire combien il y avait de compétition. Oh, vraiment. Et je pense que c'est ça qui a été. Quand ils m'ont dit ouais, c'est bon, t'es qualifié, c'est sûr, t'as pas besoin de faire la prochaine. Il y avait encore un grand slam qui arrivait. J'ai dit, vous êtes sûr, recomptez bien quand même que je passe pas à côté. Est-ce que vous êtes sûr? Ils m'ont dit, non, quoi qu'il arrive, t'es qualifié, machin. Mais c'est tout. Donc en fait, moi, j'ai pris compète par compète. Et à chaque fois qu'on me posait la question, je disais, mais moi, si je fais les jeux, c'est que je dois faire les jeux. Si je fais pas les jeux, c'est que je dois pas faire les jeux. Pour l'instant, il y a le Japon.
Ce qui compte, c'est celle qui vient là.
Toutes les compètes qui arrivent. Parce que quoi qu'il arrive, j'y vais jamais pour faire le touriste. Que ce soit le gros objectif ou pas, j'y vais pas pour perdre, quoi qu'il arrive. Donc. Compète par compète, et en fait je pense que c'est ça qui a fait que je suis arrivé au bout avant la fin des compètes même.
Même si on sent que vous êtes très concentré quand vous êtes en compétition, il y a aussi une forme d'insouciance, de légèreté chez vous. Il pense à quoi votre esprit le reste du temps?
Tout sauf au karaté. Non, en vrai je pense que c'est ça qui a fait que j'ai fait énormément de titres en toute humilité. Parce que j'ai toujours essayé de minimiser les événements. Aujourd'hui, c'est pour ça que je me rends pas compte de tout ce que j'ai fait. Mais
que vous êtes
pas.
Triple champion du monde, ouais, et champion olympique.
Ouais, et même en fait, en soi, si tu veux aller jusqu'au bout, aujourd'hui, je suis le plus gros palmarès français de tous les temps. Et en vrai, ça me, je sais pas, ça me procure rien. C'est pas que ça me procure rien. Peut-être que dans 10 ans, je m'en rendrai compte. Le jour où il y aura plus. Mais là, actuellement, non, parce que, enfin, en tout cas, ça m'a pas changé. Ça change rien. Parce que ouais, j'ai toujours essayé de minimiser. J'ai tellement essayé de minimiser pour pas me mettre la pression, peut-être justement, que bah, j'ai minimisé peut-être aussi toutes ces victoires-là, peut-être.
Et surtout, vous avez été obligé de travailler dans la vraie vie. Vous,
ouais.
Vous travaillez à la SNCF,
ouais.
Dans une station RER.
Plus maintenant. Ça, c'était mes premières années quand j'étais encore à Paris.
Quand vous étiez au Crêpes,
ouais.
À Châtenay-Malabry.
J'étais à Foch, RERC, donc j'étais bien quand même.
Oui.
Et maintenant j'ai été muté à Thionville, je suis à fret. Maintenant c'est ceux qui réparent les trains. Enfin moi je suis en bureau mais je suis plus en gare.
D'accord.
Et ça a été un équilibre heureusement que j'ai eu ça tout au long là depuis le début. Enfin depuis que je suis rentré, je devais avoir la vingtaine, je sais plus exactement, ça va faire 7 ans que j'y suis je crois. Et ça a été ma stabilité parce que on reste des sports amateurs et on reste pas des sports où il y a des millions d'euros. Donc au moins si je me blesse et que j'arrête ma carrière, bah, j'ai un CDI quand même et j'ai eu un détachement tout au long et j'ai toujours d'ailleurs un détachement où je travaille 50 jours et c'est comme si je travaillais à plein temps.
On arrive à Tokyo, à ces Jeux Olympiques, on est donc en 2021. On est toujours dans une période de restrictions sanitaires. Ça signifie que votre famille ne peut pas venir.
Ouais.
Et quand on vous entend, ça a dû être un déchirement.
Ouais, c'était dur. C'était dur, mais je pense que ça a été plus dur pour eux que pour moi. Parce qu'ils ont suivi toutes les compètes. Même si moi, c'est ma force. Il y a le téléphone, etc. Donc voilà. Mais moi, ça a été dur, mais eux, pire, parce qu'ils ont suivi toutes les compètes de ma carrière. Et de celle de mes frères, d'ailleurs. Mais pas la plus belle. Donc c'est dur parce que moi je les ai vécus quand même les jeux. Même s'ils n'étaient pas là et que ça m'a fait du mal, je pense pour eux pire. En plus d'être loin, décalage horaire et tout, suivre ça de loin, la pression et tout, c'est... Moi j'avais quand même le staff, etc. Et puis je suis là, c'est moi qui suis sur le tapis, donc la pression c'est différent encore. Et en plus de ça, j'ai eu le droit de prendre Jessie avec moi les 10 jours avant, donc j'étais pas totalement tout seul.
Vous êtes champion du monde en titre quand vous arrivez à Tokyo. Vous avez tout gagné, vous êtes le grand favori et en plus, pour alléger la pression, vous dites « je viens pour l'or ou rien en fait ».
Bah ouais, mais en fait, c'est moi, il n'y a que l'or qui m'intéresse. Il y a des fois où, comme je disais, j'ai perdu des compètes où j'ai fait 3 et que j'étais dégoûté. Et que moi, si j'avais rien fait, c'était la même chose. Ça aurait eu le même goût. Donc tout le monde a retenu ça, mais moi je l'ai dit comme je le dis pour chaque compétition. Je dis ouais, bah, moi j'y vais pour l'or ou rien, sinon ça m'intéresse pas.
Est-ce que la pression, elle vient pas aussi un peu de Mont-Saint-Martin, votre ville d'origine? Parce que votre portrait est sur les bus,
ouais,
sur
partout.
La mairie.
Ouais, grave. En vrai, ça a été la compète la plus dure de ma vie parce que j'avais tellement peur de décevoir tous les gens qui. Et en plus, le plus dur, c'est d'apporter, c'est d'être favori. Tu sais, tu croises quelqu'un, il te dit ouais, mais de toute façon, tu vas gagner, c'est sûr. Pouah, qu'est-ce que c'est horrible à entendre ça. Parce que comme si, genre, t'as pas le choix. Enfin, genre, c'est trop. Ou alors, c'est trop facile, tu peux que gagner. Mais qu'est-ce que c'est dur. Et en plus, tu te mets la pression. Je me souviens, avant de partir au jeu, avoir dit à mon père. J'aurais honte de revenir si j'ai rien, genre, si je gagne pas. Tellement j'étais partout et tellement et tout le monde me suivait, genre. Et ça a été super dur parce que je pense que je l'aurais super, super mal vécu.
Parce que vous dites, on le sent, oui, on le voit lors des séries.
Mm.
Vous êtes tendu. Mm. Vous vous qualifiez quand même pour les demi-finales.
Mm.
Là, c'est bon, la pression, elle retombe.
Ouais. Ouais, quoi qu'il arrive, je rentre avec une médaille. Je suis en demi, quoi qu'il arrive, je rentre avec une médaille.
Ça y est,
je rentre pas bredouille.
Voilà, vous autorisez.
Même si je rentre pas avec l'or et que je serais dégoûté si je rentre pas avec l'or, je rentre pas bredouille. Je rentre avec une médaille olympique, quoi qu'il arrive, c'est magnifique, tu vois. Donc, on va essayer d'aller choisir la couleur. Maintenant, je me suis dit, bon, vas-y, tu rentres médaillé, choisis la couleur.
Et pour aller choisir la couleur, vous vous dites, je vais rentrer au village olympique.
Ouais.
Hein, il est à une heure de route, mais juste avant la demi-finale.
Ouais, ouais, non, j'avais besoin. Ouais, personne n'a fait ça.
Non, mais personne ne fait ça.
De toute façon, je crois que même au départ, si je me souviens bien, ils n'étaient pas chauds pour que je parte. Pas le staff, hein, mais genre l'organisation. Ils ont dit, mais comment, ça a une heure de route, allez, une heure de route retour, ça fait 2 heures, c'est dans 4 heures. Et on est rentré quand même, on a réussi à se débrouiller, on rentre.
Vous obtenez souvent ce que vous voulez.
Mais là, ils n'avaient pas le choix, dans des circonstances compliquées. Eux, ils faisaient, bon, laisse faire ce qu'il veut, parce qu'après, pas, ils nous disent, ouais, c'est de notre faute et tout. Et même, de toute façon, Olivier, il me connaît tellement par cœur, il sait que si je lui dis un truc, c'est que j'en ai besoin sur le truc. Moi, je fais au feeling.
Et il a dû faire une drôle de tête, Olivier Baudry, votre entraîneur, quand vous lui dites, ben non, là, je vais rentrer au village.
Ouais, il m'a dit, t'es sûr tout. Il m'a dit, tu veux pas te poser là, dans un coin, tout, tac, moi, tu dors, ou je sais pas. Non, je vais me reposer au village. Alors, j'ai rien reposé du tout. Mais faut que je coupe et tout. Je rentre au village. Et en fait, je voulais rentrer au village parce que j'étais énervé un peu de mes éliminatoires quand même si ça s'est bien passé. Hein. J'étais quand même énervé de mes éliminatoires parce que je sais que j'étais pas à mon niveau. En fait, le fait de rentrer, c'est une journée, elle est finie. Et le fait de revenir, c'est une deuxième journée. Vas-y, on a effacé la première, on part sur une deuxième. Et j'avais besoin de ça.
On remet les compteurs à zéro.
Ouais, c'était ça. Alors que j'ai perdu plus de temps dans le bus que je me suis posé, mais c'est pas grave. Je suis rentré, tac, j'ai été manger, je me suis posé un peu dans ma chambre 1 heure. Téléphone avec mon père, ma mère, mes parents. Hop, retour bus, et là, nouvelle compète.
Nouvelle compète, nouvelle journée.
Ouais, et j'avais pas le choix surtout, parce que j'avais fait une petite faute de frappe dans les éliminatoires, et en gros, ma finale, elle était en demi, plus ou moins.
Mm-hmm.
Le deuxième favori avec moi, c'était ma demi, donc fallait que je me... Et il avait été en feu toute la matinée, tout ça, c'est pas dur, tout le monde me voyait perdant sur la demi. Donc c'était là qu'il fallait être prêt à ce moment-là, donc fallait couper obligé.
Là, je suis obligée de dire que vous avez haussé les yeux sur le « on me voyait perdant », ça, vous devez pas aimer.
Ouais, on est venu me féliciter après ce combat-là. Ah, félicitations, hein, je savais. Non, tu savais pas, tu me voyais perdant. Je l'ai dit sans pitié à des gens, à beaucoup de gens le jour-là. J'ai fait pas semblant, tu pensais que j'allais perdre.
Et la superstition dans tout ça?
Oh là là, là tu te lances sur un sujet dangereux, oh la gars. Non mais moi, ça fait peur. Hein. Non mais même moi, des fois je me fais peur, je me dis ah non, je suis un malade. Et encore, je me suis calmé sur plein de choses, je te jure, en compétition, c'est encore pire.
Justement, en compétition, donc vous battez le Kazakh d'Arkan Asadilov, vous êtes donc en finale,
mm-hmm.
Et là vous changez de kimono?
Ah ouais, c'est vrai. Mais ça, je le fais. En plus, le pire, c'est que, en fait, je suis superstitieux. Mais il y a des trucs au feeling... Je vais le changer le jour J, alors que personne ne fait ça. Quand t'as on a tous des trucs de conditionnement et tout. Moi, j'ai mon caleçon de compète et tout, c'est un peu tout le monde. Mais il y a des trucs que j'arrive à changer le jour J et que ça ne me perturbe pas. Le kimono, oui, je l'ai toujours fait. Aujourd'hui, je peux te dire qu'en finale des mondes, je ne l'ai pas changé, j'ai mis le même.
Mais c'est paradoxal pour quelqu'un d'aussi superstitieux.
T'as vu? Après, j'essaye de me forcer sur des trucs parce que, en fait, j'en avais tellement à la fin que je me perdais moi-même. Et je change de kim parce que j'ai toujours fait ça. J'ai un kim qui gagne les éliminatoires et j'ai un kim qui gagne les finales. Mais pourtant, c'est rien à voir. Je l'ai jamais mis, le kim que je mets en finale. Mais dans ma tête, il faut que je change, faut que ce soit pas le même.
D'accord.
Et pareil, mais il y a plein de trucs. Un kim, si je fais une compète, je perds. Le kim, plus jamais de ma vie, je le mets. Même
ça,
une paire de protect, des fois tout neuf. Plus jamais, je mets.
Bon, ça vous arrive pas très souvent de...
Ouais, ça arrivait quand même.
Donc on s'approche de cette finale, on est toujours le 5 août 2021, vous êtes sur le tatami, c'est la finale des Jeux Olympiques. Face à vous, un Turc, un certain Eray Samdan.
Je l'avais pris le matin en fait, je perds sur lui dans les éliminatoires et je me sentais pas de le reprendre une deuxième fois la même journée. C'est chiant quand tu prends deux fois la même personne sachant que t'as perdu le matin, déjà tu pars avec un peu moins bien d'entrée.
Mais à ce moment, pourtant, vous êtes toujours confiant.
Il ne me connaît pas par cœur, parce que c'était à moins de 60, donc c'était la caté d'en dessous. Il m'a jamais pris, même s'il a fait pas mal de médailles hein, et qu'il est très bon. Il m'a jamais pris et en général, ça me réussit bien, ceux qui m'ont jamais pris.
Et le temps qui défile, David, 35 secondes encore. 35 secondes pour Steven Da Costa pour être champion olympique.
Et donc, à la fin, vous retentez ce fameux coup de pied, un Ura Mawashi. Comme le petit Steven sur sa peluche quand il était petit.
Il revient à la fin, on dirait c'est pour clôturer tout un truc autour de ça, j'ai l'impression. Parce qu'en soi, il n'était pas nécessaire. Parce que je gagnais 2-0 et c'était fini. Mais on dirait qu'il vient pour toujours le rappeler qu'il m'en a fait avoir des belles.
Voilà ta jambe, ton spécial, c'est bien ça. Le temps défile, 3 secondes, il est champion olympique.
Il est
champion olympique.
Oui, je crois qu'il l'a.
Il a mis 3 points de plus, le Français. Il ne pourra pas être pris. Et bien sûr que non. Et ça y est, le Français Steven Da Costa,
champion olympique.
Oui, monsieur
Da Costa. Meilleur Steven.
Et oui, tu l'as crié.
Tu l'as fait. C'est notre porte-drapeau aujourd'hui. Steven Da Costa vient de rentrer dans l'histoire.
À ce moment-là, vous vous dites quoi? Ça y est, je suis tout en haut. Je suis champion olympique.
Je me dis rien du tout. Je te jure. Je me dis Dieu merci, c'est fini, comme presque toutes les compètes.
Le podium, la Marseillaise, un souvenir. Nous, on se souvient de l'absence de masque sanitaire.
Ouais, tout le monde ça. Mais ça, franchement, j'en avais rien à secouer, je te mens pas. Crois-moi que mes seuls jeux, tu vas pas me rendre fou avec ton masque. Et personnellement, viens me chercher sur le podium si tu veux que je le mette. Hein. Parce que là, c'était clairement pas mon problème.
Globalement, un champion olympique de karaté, personne va aller le chercher.
Franchement, même sans ça. C'est juste qu'à la télé, je vois mal le mec débarquer au pied du podium et me dire ton masque. Ils avaient des cartons pour dire mais le masque, ils étaient de loin, me montrer. Personnellement, c'était le dernier de mes soucis.
Est-ce que le meilleur moment de ces Jeux Olympiques de Tokyo, c'est pas quand vous rentrez à Mont-Saint-Martin?
Si, c'était choquant. Franchement, c'était grave choquant parce que déjà, je suis arrivé tard parce que j'ai dû aller au Trocadéro. Et
pour faire la fête, pour montrer votre médaille?
Ouais, j'avais pas envie d'y aller à la base, je devais pas y aller. Et on m'a forcé un peu. Donc,
donc parfois, on arrive à vous faire changer d'avis.
Ouais, on m'a pris par les sentiments, j'ai accepté, rapide. Et j'arrive, je crois, il est 22h chez moi. Donc, ils veulent faire mon retour à la ville, etc., etc. Donc j'arrive à la mairie. Et en plus, moi, sur le trajet et tout, je dis à mon père, mais mettez rien. Il commence à faire des publications comme quoi, pas mon père, mais le club, la ville et tout, comme quoi j'arrive à telle heure, nanana. Je lui dis, imagine, j'arrive, il y a 10 pèlerins, tu vois. Tu sais, moi, je me rends pas compte à ce moment-là.
Que, vous étiez au jeu où il n'y avait pas de public.
Ben
donc
ouais, mais moi, je me rends
pas
compte en plus. Tu sais, je me dis, personne n'y va venir, tout le monde s'en fout, genre, enfin. Moi, je me rends jamais compte des trucs. J'arrive, il y a au moins 500 personnes, tout, c'était une dinguerie, alors qu'il était tard. Et en plus, si je me trompe pas, on était en semaine. J'arrive, il y a plein de monde, et en plus, c'est en plein mois d'août, les gens, ils sont en vacances, normalement, tu vois.
Ah, mais là, ils sont revenus.
Mais là, il y avait du monde à mort, même moi, j'étais choqué.
Quand vous avez été désigné porte-drapeau, vous avez fait un tweet. Grosse pensée pour ma famille, ma ville, mon club et tous ceux qui me soutiennent. Je crois que c'est la première fois que je vois famille et ville à côté. On ne met pas les amis au milieu, c'est la famille et la ville.
Ouais, c'est chez moi, c'est ma ville. Tout le monde m'a tellement soutenu. Quand je dis ma ville, ça comprend aussi sûrement mes amis, tu vois.
Bien
et quand
sûr.
Je dis ma famille, ça comprend peut-être aussi mes amis, tu vois. Mais ma ville, parce qu'en fait, l'avant-jeu, l'après-jeu, le pendant-jeu, tout le monde m'a soutenu. Enfin, peut-être pas tout le monde, forcément, mais en tout cas, il y a eu un gros soutien énorme de ma ville. Forcément, je peux que les remercier.
Et la médaille, elle est aussi un peu pour eux?
Bah ouais. Je suis le seul premier Mont-Saint-Martinois à faire les Jeux. Et le premier à ramener une médaille en or en plus. Maintenant, quand il y a écrit Ville de Mont-Saint-Martin, en dessous, il y a écrit Habite Steven Da Costa. Il y a un truc bien, tu vois, un truc stylé. C'est tout. Sinon, il n'y a pas grand chose qui a changé.
Alors, vive cette médaille olympique.
Merci beaucoup.
Merci. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Pierre Loïs Thomas et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis, on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, L'actualité au quotidien et Crime Story, chaque samedi.